Quand on est amoureux, choisir de vivre ensemble n'est pas un moment anodin. C'est souvent perçu comme une décision importante, et effectivement, elle l'est. Mais vivre à deux sous le même toit n'est pas le gage d'une relation amoureuse ou d'un couple épanoui. Et pourtant, ce modèle reste très répandu, avec toutes les contradictions que cela génère. Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dans ce nouvel épisode. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va parler d'amour à nouveau, de votre couple ou de votre célibat et du lien avec votre maison. Quand on est amoureux, choisir de vivre ensemble n'est pas un moment anodin, c'est un marqueur important de l'histoire à deux. Et dès qu'on formule cette intention, on sent qu'on s'engage un peu plus. On s'engage vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi, et c'est pas anodin du tout. Et derrière cet élan d'amour, il peut aussi y avoir des peurs. La vie à deux sous le même toit ne garantit pas que ce sera facile, ni même que l'amour sera toujours là. On le sait. Et pourtant, ça reste le modèle le plus répandu dans une vision assez romantique du couple, et c'est assez contradictoire d'ailleurs. Dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ces contradictions, et comment elles s'expriment dans la maison, quelle que soit notre situation, célibataire ou en couple. Souvent dans notre vie amoureuse, on aspire à autre chose, en éternel insatisfait. Quand on est célibataire, on se projette en couple, et quand on est en couple, on veut des moments seuls. Je caricature un peu, je généralise, mais on s'est tous retrouvés dans cette situation d'insatisfaction à un moment ou à un autre de notre vie. Comme s'il n'y avait pas un juste milieu. Notre vie amoureuse, elle n'est pas toujours simple ni facile. Elle est pétrie d'émotions, de contradictions, de projections aussi. Et c'est vraiment un espace qui est très challengeant. Il y a soi, il y a l'autre, il y a l'entité du couple. C'est une équation avec plein d'inconnus. Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Comment j'accueille l'autre? Et comment je trouve ma place? Comment je peux préserver mon espace et qui je suis tout en créant avec l'autre? Toute cette série de questions, on se les pose même inconsciemment. En fait, on met beaucoup de poids et beaucoup d'attentes sur nos relations. Et si on met du poids et de l'attente, c'est parce qu'on fait des projections. Même inconsciemment. On est souvent dans le futur au lieu d'être dans le présent. Et nos attentes, nos projections en matière de couple ou de vie amoureuse ne sortent pas de nulle part. Ça, c'est vrai qu'on soit en couple ou célibataire. Nos attentes, elles sont le fruit de notre histoire personnelle. Qu'est-ce qu'on a déjà vécu, nous-mêmes, dans notre vie amoureuse? Qu'est-ce qui nous a marqué? C'est quoi notre passé? Est-ce qu'on a déjà vécu en couple? Ou alors, est-ce qu'on a toujours été célibataire? Est-ce qu'on a vécu des histoires courtes, des histoires longues? Est-ce qu'on a partagé le même logement? Est-ce qu'il y a eu des enfants? Toutes ces relations constituent notre histoire, notre bagage unique, notre référentiel. Et puis nos attentes, elles sont aussi issues de notre environnement familial. Qu'est-ce qu'on a vu quand on était enfant? C'était quoi le modèle du couple parental? C'était quoi le couple de nos grands-parents? C'était quoi les couples qui étaient autour de nous, les parents de nos amis? Notre environnement familial nous a vraiment marqués aussi pour venir modéliser et créer des attentes autour de cette vision du couple. Puis il y a aussi l'environnement social. Quels sont aujourd'hui nos référents parmi nos amis, parmi nos connaissances? Et on a tous des couples d'amis ou des célibataires autour de nous qui nous inspirent, même inconsciemment. C'est qui vos modèles de référence? À quoi ressemble votre couple de référence? Regardez autour de vous et vous allez voir qui vous inspire. Et puis à tous ces référents qui sont déjà là, il y a aussi nos modèles de société. C'est quoi le modèle idéal qu'on nous vend un peu partout? Il y a des effets de mode aussi, et des effets de génération dans le modèle amoureux. Regardez par exemple comme le divorce était très mal perçu il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais enfant, mes amis qui avaient des parents divorcés se comptaient sur le doigt d'une main. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant. Et on envisage tout à fait d'avoir plusieurs histoires amoureuses importantes dans notre vie. C'est comme le célibat. Le célibat était relativement mal perçu pendant très longtemps. C'était forcément quelque chose de subi, et non pas de choisies, on parlait des vieilles filles, pour montrer du doigt ces femmes qu'on n'avait pas épousées. Et ce n'était pas un titre qui était très reluisant. Il y avait tout un imaginaire derrière ces vieilles filles qui étaient forcément aigries. Et puis aujourd'hui, les couples libres aussi sont beaucoup plus courants. Donc il y a tous ces effets de génération aussi qui sont là, et nos modèles de vie amoureuse qui évoluent. Mais même si ça évolue, même s'il y a des effets de génération, le modèle du couple traditionnel reste très ancré. Ce que j'appelle le couple traditionnel, c'est le fait de vivre à deux sous le même toit. Indépendamment du fait d'être marié ou pas, indépendamment du fait d'avoir des enfants ou pas, la projection du domicile partagé reste très ancrée dans l'inconscient collectif. Ça continue d'être perçu comme un aboutissement, comme une consécration de l'intensité de notre amour. Regardez dans tous les contes de fées, on nous berce avec ça depuis qu'on est tout petit. Mais le prince emmène la princesse dans son château, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Comme si c'était l'aboutissement de leur histoire, la finalité ultime, alors qu'en fait c'est que le début de l'aventure. Et regardez d'ailleurs à propos de mariage, regardez dans votre livret de famille, si vous êtes marié, mais le domicile conjugal reste l'une des obligations des époux, c'est dans votre contrat de mariage. Et on nous a vendu ce modèle de couple-là, ce modèle de couple vivant à deux sous le même toit, comme étant le modèle amoureux idéal. Et même si notre vie nous a amenés à expérimenter d'autres choses, ça reste très ancré inconsciemment. Et d'ailleurs, parfois, quand on ne veut plus vivre sous le même toit que quelqu'un, ou qu'on ne veut plus entendre parler d'amour, qu'on ne veut plus entendre parler de couple, on fait des amalgames entre ces différentes notions, c'est parce qu'on l'a déjà vécu et qu'on est en réaction. C'est pas parce qu'on est neutre sur cette question-là. On n'en veut plus, mais ça reste très présent en nous, parce qu'on a du ressentiment. Et donc on se construit autour de ce modèle-là, soit en le cherchant, soit en le repoussant, mais ça reste présent. Donc la question, c'est de savoir ce que je veux vraiment pour moi. En prenant conscience du poids de ces modèles et de ces conditionnements, que ce soit pour mieux les choisir ou pour mieux s'en affranchir. C'est quoi votre modèle amoureux à vous? Et est-ce que la maison commune en fait partie? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais moi, je vois plein de contradictions dans les maisons. Le modèle du couple et de la maison partagée n'est pas le gage d'un couple heureux. Et pourtant, on continue de s'y projeter. Alors que notre modèle est à inventer et à créer de toutes pièces avec l'autre. Notre histoire, elle est unique. Elle ne peut pas se décliner d'après des modèles préétablis, y compris quand il s'agit de décider si, quand et comment partager le même toit. Parce que nos projections, nos attentes vont nous enfermer dans des cases ou dans des schémas où on ne pourra pas être dans un état de création ou de co-création avec l'autre. Et ce sont aussi ces attentes et ces projections qui vont parfois nous empêcher de rencontrer l'amour. Et là, je voulais revenir sur les célibataires, ou en tout cas ceux qui ne souhaitent plus l'être. Souvent, quand on désire faire une nouvelle rencontre, on y va avec toutes nos peurs, on y va avec nos attentes, on y va avec nos projections, on y va avec nos contradictions. On ne part pas du tout léger. On veut cette rencontre, mais on a un boulet au pied. On y va à reculons. On veut être en couple et en même temps, on ne veut pas. Ou alors on veut, mais à certaines conditions. Ou alors on veut, mais en ayant une idée très arrêtée de comment l'autre doit être ou de comment l'autre doit se comporter. Et là, on est pétri de contradictions. Et notre maison donne à voir ces contradictions. Dans votre maison, qui est votre espace le plus intime, je peux voir si vous êtes effectivement disponible pour une rencontre ou pas. Votre maison, elle ne triche pas. Elle donne à voir véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de vous et quelle est votre intention. Et il y a souvent un gap entre ce que vous dites et votre intention véritable. Je voulais vous partager l'histoire de Claire. Claire, je l'ai accompagnée il y a quelque temps. C'est une jeune femme célibataire. En tout cas, elle était célibataire. Elle vivait dans un appartement T2 en centre-ville. Et ça faisait plusieurs années qu'elle subissait ou qu'elle avait l'impression de subir son célibat. Et donc vraiment, elle aspirait à faire une belle rencontre. Une rencontre qui dure. Elle avait envie de construire une vie de famille aussi. Et puis elle voyait aussi les années passer avec son horloge biologique qui commençait aussi à tourner. Donc il y avait une vraie anxiété autour de ce sujet. Claire, elle faisait des rencontres. Ce n'était pas une célibataire coupée du monde, repliée dans sa tanière. Mais les hommes qu'elle rencontrait ne restaient pas. Ils ne restaient pas dans sa vie. Les histoires tournaient court assez rapidement et elle ne comprenait pas pourquoi. Et en travaillant sur son appartement, on a mis en évidence ses contradictions. En l'occurrence, elle n'avait aucune envie de partager son espace. C'était très clair et en tout cas, dans son appartement, tout le montrait. Et quand ses amoureux venaient chez elle, c'était super inconfortable pour eux. Ils n'osaient pas rester. Et ils finissaient par sortir également de sa vie. Donc on a mis à jour cette contradiction. Claire a d'abord fait la paix avec ça. Puis elle a pu faire de la place chez elle pour accueillir ce nouvel amoureux. Parce qu'elle l'avait vraiment choisi. Et donc elle a arrêté d'envoyer des signaux qui partaient dans tous les sens. Et à partir de là, effectivement, sa vie amoureuse a pris une autre tournure. Votre maison, elle donne à voir si vous avez réellement envie, si vous avez réellement choisi d'y faire entrer l'amour ou pas. Le discours ne suffit pas pour rencontrer quelqu'un. Il faut également que l'intention soit claire, que l'intention soit alignée, qu'elle soit cohérente. Et votre maison va y contribuer. À travers votre maison, ce à quoi elle ressemble, ce qu'elle contient, vous envoyez un message. Et l'autre va sentir s'il est invité à entrer dans votre vie ou pas. Donc si vous êtes célibataire et que vous en souffrez, je vous invite vraiment à vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que je fais vraiment le choix de l'amour et quels sont mes freins à cette nouvelle relation? Allez regarder ça sans jugement, juste observez-vous, observez vos pensées, observez vos émotions quand vous vous posez cette question. Allez au-delà de ce que le mental vous raconte. Et vous allez peut-être découvrir des choses étonnantes sur votre véritable intention. Voilà mes amis pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur pour vous et pour votre maison et puis pour votre vie amoureuse aussi bien sûr. C'est un sujet qui est passionnant et c'est aussi un sujet que j'approfondis dans mon nouveau programme, un nouveau programme que je suis sur le point de lancer et qui va sortir dans quelques jours. C'est un programme qui va vous permettre d'aller voir comme pour Claire quels sont les signaux qui sont là dans votre maison et que vous ne voyez peut-être pas. J'ai vraiment à cœur de vous le partager et qu'on explore toute cette question-là ensemble. Si vous avez envie de m'y rejoindre, je vous partagerai le lien sous cet épisode. Et la prochaine fois, on parlera du quotidien à deux dans la maison. Quand on partage chaque jour le même toit, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais ça, on en parle la semaine prochaine. Merci pour votre présence et pour votre écoute aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.